Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 4 juillet 2024. En direct de Washington, Rosine Monedero. Pour commencer, les titres. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 4 ressortissants chinois ont été tués hier dans le nord-est du pays. En Guinée, 10 personnes, dont 7 femmes, ont péri dans l'incendie d'une maison près de Conakry. La France aborde la dernière ligne droite vers des élections législatives dont le deuxième tour se déroule dimanche. Dans notre partie magazine, aujourd'hui 4 juillet est un jour férié aux États-Unis. Le pays commémore son indépendance du Royaume-Uni le 4 juillet 1776. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au moins 4 ressortissants chinois ont été tués hier matin dans une attaque lancée par des miliciens contre un site minier en Ituri. Le point avec Eddy Isango.
Il y a eu incursion des Codeco dans le site minier des Chinois, non loin de la localité d'Abombi, dans les territoires de Djougou, en Ituri, a déclaré le député provincial Jean-Pierre Bikili Sende. Nous avons un premier bilan provisoire des 4 Chinois tués et 2 éléments FRDC blessés, a-t-il ajouté. Vital Tungulo, un notable du secteur, a quant à lui indiqué que 6 ressortissants chinois, 2 militaires congolais et 2 civils ont été tués. Cette attaque est attribué au groupe armé Codeco, coopérative pour le développement du Congo, une milice qui dit défendre les intérêts de la tribu Lendo face à une tribu rivale, les Ema. Les attaques des sites et convois miniers sont fréquentes en Ituri et dans l'autre province aurifère du sud Kivu, où les mineurs chinois sont nombreux. Les conflits autour de l'or sont aussi récurrents entre les populations locales et les exploitants chinois. L'Ituri est aussi dans sa partie sud, la cible d'attaques civiles menées par les ADF, Forces démocratiques alliées, affiliées au groupe État islamique qui sévit dans les nord de la province voisine du Nord Kivu.
Toujours en RDC, 25 militaires congolais accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre les rebelles du M23 ont été condamnés à mort mercredi dans l'est du pays à l'issue d'un procès d'une journée. 31 prévenus, 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses de militaires, ont comparu devant le tribunal militaire de garnison de Butembo dans le nord Kivu. Les autres accusés, dont 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves, a indiqué Maître Jules Mouvweko, un des avocats à la défense. Dans le centre du Mali, plus de 20 civils ont été tués par balles ou à l'arme blanche lundi dans un village lors d'une attaque imputée à des djihadistes. Un nombre incertain de personnes sont portées disparues, ont annoncé des responsables locaux mercredi. L'attaque lancée avant la tombée de la nuit a duré environ 3 heures, a dit le représentant local des jeunes. En Guinée, 10 personnes, dont 7 femmes, ont péri dans l'incendie hier d'une maison près de Conakry. Le pays a connu ces derniers temps une série de drames. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Un incendie s'est déclaré mercredi vers 2h temps universel dans une maison dans la localité d'Ansoumania, entraînant la perte tragique de 10 vies humaines, dont 7 femmes et 3 hommes parmi les victimes. Nous déplorons la perte d'une femme enceinte et d'une autre en âge avancé, selon le communiqué du gouvernement. Il y avait 14 personnes dans la maison. On a pu en sauver 4, affirme un témoin, ajoutant que l'incendie a été provoqué par un court-circuit après une coupure d'électricité. La Guinée a connu récemment une série de drames. Les inondations ont fait mardi au moins 3 morts, dont 2 enfants et une femme enceinte, après de fortes pluies à Conakry. Un incendie de la route a fait lundi 13 morts, dont 10 femmes dans le centre-est du pays. Et l'incendie du principal dépôt de carburant du pays en décembre avait fait au moins 24 morts à Conakry.
Le mouvement pacifique de mobilisation mené par la jeunesse au Kenya contre un projet de gouvernement prévoyant de nouvelles taxes désormais retirées a progressivement sombré dans la violence. Des dizaines de personnes ont été tuées par la police et des scènes de pillage menées selon les manifestants par des voyous infiltrés ont été rapportées lors des dernières journées de mobilisation. Au lendemain de la journée du 25 juin, le président kényan William Ruto a annoncé le retrait du projet de budget et appelé à un dialogue avec la jeunesse. Mais il a aussi accusé certains manifestants d'être des criminels et affirmé que la police a fait de son mieux pour maintenir l'ordre. Le premier ministre égyptien Mustapha Makbouli a formé un nouveau gouvernement mercredi, marqué par de nombreux changements, principalement à la tête des ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. Réélu en décembre à la tête du plus peuplé des pays arabes, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a entamé en avril son troisième mandat de 6 ans, a chargé en mai M. Makbouli de former un nouveau gouvernement. Les 30 ministres du cabinet ont prêté serment mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Cour suprême des États-Unis à majorité conservatrice a conclu sa session annuelle par une décision hautement controversée sur l'immunité présidentielle au cœur d'une campagne électorale perçue par les progressistes comme décisive pour la démocratie américaine. Les décisions des derniers jours feront date sur le champ de l'immunité présidentielle comme sur la liberté d'action des agences fédérales. La rupture a été saluée par les parlementaires républicains comme le début de la fin de la bureaucratie. La Cour s'est divisée sur chacun de ces dossiers selon des lignes idéologiques, les 6 juges conservateurs contre les 3 progressistes. Les leaders politiques britanniques se sont lancés dans une dernière course effrénée aux voix au dernier jour d'une campagne électorale qui devrait aboutir à l'élection d'un gouvernement travailliste après 14 ans de règne des conservateurs. Le Premier ministre Rishi Sunak a insisté sur le fait qu'il continuait à se battre avec acharnement, bien que l'un de ses plus proches alliés ait admis que les conservateurs se dirigeaient vers une défaite extraordinairement écrasante jeudi. Les sondages prédisent une écrasante majorité pour le parti travailliste qui pourrait remporter ses premières élections générales depuis 2005, faisant de Keir Starmer, 61 ans, le premier chef du gouvernement depuis Gordon Brown en 2010. Ce résultat verrait aussi la Grande-Bretagne basculer à gauche depuis plus d'une décennie de gouvernement conservateur de droite, dominé d'abord par l'austérité, puis par le Brexit et la crise du coût de la vie. La France aborde la dernière ligne droite vers des élections législatives dont le deuxième tour se déroule dimanche. Ces élections pourraient se solder par l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mouamadou Oumfa.
À 3 jours du second tour, le paysage politique est plus imprévisible que jamais, avec une forte dynamique en faveur du Rassemblement national de Jordan Bardella, qui rêve de composer le premier gouvernement d'extrême droite en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dimanche, soit le pouvoir sera entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite, soit le pouvoir sera au Parlement. Moi, je me bats pour ce deuxième scénario, a prévenu Gabriel Attal, le premier ministre français. Sur les 311 triangulaires, scrutin avec 3 candidats qualifiés au second tour, les 2 tiers ont fait l'objet de désistement des partis de gauche, de la droite républicaine et du centre-droit dans le but de compliquer l'élection des candidats RN. La plupart des projections prévoient que les candidats RN et ses alliés auront des difficultés à atteindre la majorité absolue, 289 députés, renforçant l'hypothèse d'un scénario à 3 blocs, extrême droite, gauche, macroniste, qui pourrait rendre le pays ingouvernable. Dans un entretien au quotidien Le Figaro, M. Bardella a dénoncé de son côté des alliances anti-RN destinées à paralyser le pays, se disant prêt à la main tendue pour élargir sa majorité.
Un chef militaire du Hezbollah libanais a été tué hier dans une frappe israélienne au sud du Liban. Le mouvement chiite allié du Hamas palestinien a riposté par un barrage de tirs sur des positions israéliennes sur fond de crainte d'une escalade. Le point avec Dili Diko.
Dans un communiqué, le Hezbollah a annoncé la mort du commandant Mohamed Neme Nasser, alias Hajj Abu Neme. Selon une source proche du Hezbollah, il s'agit du 3e chef militaire tué au sud du Liban depuis le début des violences entre le parti pro-iranien et Israël le 8 octobre. Le Hezbollah a également fait état d'un 2e combattant tué mercredi. L'armée israélienne a déclaré avoir avoir éliminé Mohamed Nasser, l'identifiant comme le commandant de l'unité Aziz du Hezbollah, responsable des tirs sur le territoire israélien depuis le sud-ouest du Liban. Le mouvement pro-iranien a d'abord annoncé avoir riposté à l'attaque et à l'assassinat perpétré par l'ennemi en tirant 100 roquettes sur deux positions israéliennes sur le plateau du Golan annexé par Israël. Un porte-parole militaire israélien a déclaré qu'une centaine de roquettes ont été lancées depuis le Liban. Le Hezbollah échange quotidiennement des tirs à la frontière avec Israël depuis près de 9 mois, disant soutenir le Hamas dans sa guerre contre l'armée israélienne à Gaza. Ces violences ont fait au moins 495 morts au Liban, dont environ 95 civils, selon des données du mouvement chiite et des sources officielles libanaises.
À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Plus de 12 compagnies pétrolières, dont Exxon, Shell et la Compagnie pétrolière nationale du Brésil, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'une participation de 40% dans la découverte pétrolière majeure de Galp Energia au large de la Namibie, ont déclaré des sources proches du processus de vente. La découverte de Mopane et de Galp pourrait être évaluée à plus de 10 milliards de dollars. On estime qu'elle contient au moins 10 milliards de barils d'équivalent pétrole et de gaz. La Banque mondiale a approuvé une subvention de 208 millions de dollars en faveur de la Namibie pour l'aider à faire face à l'impact social et économique de la sécheresse qui a poussé la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe à déclarer l'état de catastrophe. Ces fonds aideront Lusaka à fournir des paiements temporaires supplémentaires en espèces à plus de 1,6 million de ménages dans 84 districts sur 12 mois. Pour terminer, la Sierra Leone vient de lancer la construction d'une centrale thermique qui devrait pratiquement doubler la capacité énergétique de ce pays où moins d'un tiers de la population a accès à l'électricité. La construction du projet Nantes Énergie devrait s'achever dans 36 mois. Ce sera la première centrale électrique au gaz de la Sierra Leone.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Ousine, bonjour à tous.
Alors, des nouvelles du marché, des transferts pour commencer. Illiman Ndiaye quitte l'OM pour Everton.
Oui, l'attaquant sénégalais a signé un contrat avec le club anglais d'Everton, selon l'annonce faite par les deux clubs. Everton a précisé que Ndiaye, 24 ans, s'est engagé pour 5 saisons. Aucun des deux clubs n'a donné d'informations financières sur ce transfert, mais selon plusieurs médias sportifs, le club anglais aurait déboursé autour de 20 millions d'euros. Régulièrement titulaire la saison dernière avec l'OM, Ndiaye a seulement marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues.
Et le tableau des quarts de finale de l'Euro 2024 sont connus depuis mardi. Nous revenons sur les enjeux de ces oppositions.
Tous les poids lourds du continent sont au rendez-vous, à l'exception de l'Italie, championne sortante, et de la Croatie. Je vous propose ce sujet que j'ai préparé justement sur ces quarts de finale. Le bal des quarts de finale s'ouvre vendredi avec deux affiches très attendues. Espagne, Allemagne et France, Portugal, soit 9 titres en cumulé et un tas de stars appelés à se départager. Français et Portugais se retrouvent après la finale de 2016, remportée par la Seleção à Paris, devant les Bleus et leurs supporters. La France a atteint les quarts de finale sans avoir marqué le moindre but dans le jeu, malgré son effectif de qualité. Les Portugais, eux, ont dû recourir au tir au but pour se défaire de la Slovénie et leur superstar Cristiano Ronaldo n'a toujours pas marqué dans la compétition. Il sera face à son homologue capitaine Mbappé dans une sorte de match dans le match. Bien avant, un autre choc retient l'attention, celui entre la Roja et la Mannschaft. L'Espagne pourra compter sur l'une de ses pépites, Lamine Yamal. À 16 ans, il a déjà mis l'Europe et quelques défenseurs à ses pieds et forme un duo redoutable avec Nico Williams. En face, l'Allemagne ne veut pas quitter aussitôt sa compétition devant ses millions de fans. Dans l'autre partie du tableau des cas, samedi, on verra s'opposer l'Angleterre et la Suisse, puis les Pays-Bas face à la Turquie. L'histoire des Néerlandais et Turcs, plus vue en quart depuis 2008, va se télescoper à Berlin dans une ambiance de feu, chacun disposant des supporters parmi les plus investis en Allemagne. De son côté, l'Angleterre s'est faufilée en quart de finale sans flamboyance ni certitude, si ce n'est celle d'avoir de l'envie et du caractère, des ingrédients pas forcément suffisants pour devenir championne d'Europe. Les Three Lions, vice-champions, devront être forts face à la Suisse, tombeuse en huitième de finale de la championne en titre, l'Italie.
Merci à Cuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Aujourd'hui, jeudi 4 juillet, c'est jour férié ici aux États-Unis. Les Américains se mettent à l'heure des festivités patriotiques. Le pays marque un jour spécial commémorant la signature de la Déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776. Au programme, retrouvailles familiales, barbecue, parades et feux d'artifice comme chaque année. Pour une petite immersion dans l'histoire, Jacques Aristide a joint le politologue américain Calvin Dark, qui, avec une pointe d'humour, nous dit s'il faut inviter ou au contraire éviter la politique à table pour les repas de famille.
En fait, l'indépendance, mais je crois que aujourd'hui, le 4 juillet, c'est exceptionnel parce que c'est la seule fête qui est purement américain. C'est-à-dire qu'il y a des liens à une religion, à une culture. C'est vraiment le holiday, le jour férié pour tous les Américains pour fêter l'Amérique. Alors, je crois que c'est pour ça que tout le monde aime fêter le 4th of July, le 4 juillet.
Comment les Américains fêtent-ils le 4 juillet? Et vous-même, d'ailleurs, qu'avez-vous prévu de faire en cette journée?
Je crois qu'il y a deux choses qu'on peut faire pour le 4 juillet. Un, c'est le barbecue, le cook-out, ou voyager. Et même si on voyage, c'est au cook-out. Alors, on voyage pour aller au barbecue, on fait le barbecue, les gens viennent. C'est vraiment une fête de famille. Parfois, on visite ma famille en Caroline du Nord, mais cette année, j'ai mes cousins qui vont me rendre visite à Washington. Alors, c'est vraiment la famille, la bouffe, la nourriture et le fellowship, comme on dit, d'être avec famille, avec le barbecue, et avec surtout parce que c'est l'été, c'est une bonne occasion de reposer un peu avec les proches.
Il s'agit donc d'une grande fête patriotique, parade géante, feu d'artifice. Et donc, pour clôturer la soirée, à New York s'enflamme également, n'est-ce pas, avec le traditionnel feu d'artifice.
Oui, feu d'artifice, c'est vraiment important. Je dis pour ma famille, ça c'est ce qu'on va faire ce soir. J'ai déjà répondu aux questions de mes cousins qui vont rendre visite. Il y a des feux d'artifice, j'ai dit à New York, à Washington D.C., il y en a, et ça c'est vraiment le point fort pour moi pour le 4 juillet.
C'est donc l'occasion des grandes retrouvailles familiales dans un pays marqué toutefois par une forte polarisation politique. Pour les repas de famille, faut-il inviter ou au contraire éviter la politique à table?
Oui, le conseil toujours c'est éviter la politique et la religion, mais je crois que en 2024, c'est impossible, c'est inévitable. Et je crois que maintenant, surtout avec la discussion après le débat, il y aura beaucoup de discussions sur la politique, mais ça ne va pas être démocrate ou républicain. Mais je crois que beaucoup de familles vont poser la question sur l'âge, parce que ça, c'est vraiment au centre de la question. Et je pense même à ma famille. On a des membres de ma famille qui a des problèmes avec l'âge. Il y a beaucoup de blagues parmi eux. Et je crois qu'il y a beaucoup de familles comme ça. Et quand on parle de la politique et la question d'âge des deux parties, je crois que ça va être un moment pour les familles de réfléchir un peu de leur situation, parce que c'est pas quelque chose juste pour les candidats à la présidence. Alors, je crois que pour ça, on va parler de politique, mais mon conseil, c'est de l'éviter si on peut.
Calvin Dark, analyste américain, directeur et cofondateur d'ORC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C. Ici aux États-Unis, des pans entiers de la Californie sont frappés depuis mardi par des vagues de chaleur intenses. La situation devrait s'aggraver pendant cette semaine de vacances du 4 juillet dans certaines régions du pays où près de 90 millions de personnes sont sous le coup d'alerte à la chaleur. Récit de Nani Talani.
La capitale de la Californie, Sacramento, a fait l'objet d'un avertissement de chaleur excessive qui devrait durer jusqu'à dimanche soir. Les températures devraient atteindre jusqu'à 46 degrés Celsius. Les services d'urgence conseillent aux habitants de suivre les consignes qui leur sont données. Christina Coffey, résidente de Fairfield, ville et siège du comté de Solano en Californie.
J'ai entendu dire qu'il allait faire près de 44 degrés Celsius, si je ne me trompe pas. Et rester à la maison avec ce type de chaleur est assez misérable parfois, même avec l'air conditionné. Alors oui, nous avons décidé de sortir, de prendre l'air et de profiter de la chaleur à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.
La chaleur en Californie devrait s'étendre du nord au sud au cours de la semaine. Le pire devrait se concentrer sur les régions intérieures, notamment les vallées de Sacramento et de San Joaquin et les déserts du sud. Mais les avertissements s'étendent jusqu'à la côte. Célèbre pour la fraîcheur de ses étés, San Francisco devrait connaître ce mardi des températures maximales de 31 degrés Celsius dans le centre-ville et de 18,3 degrés Celsius à Ocean Beach. Hilal Zakilwal habite Antelope, dans le comté de Sacramento, en Californie.
Pour être honnête, je me sens très mal parce que je ne suis pas très habitué à la chaleur, même si j'ai vécu 3 ans à Sacramento, parce que là où j'ai vécu toute ma vie, et en Afghanistan, à Kaboul, il faisait très froid et l'hiver était enneigé et l'été, ce n'était pas comme ici. Mais je pense que c'est très difficile pour moi. J'essaie d'être à l'ombre, de ne pas être sous la lumière directe du soleil.
Ces conditions torrides sont dues à une crête de haute pression située juste au large de la côte ouest et à une autre crête qui a donné lieu à des alertes et des avis de chaleur depuis les États du Kansas et du Missouri jusqu'aux États de la côte du Golfe du Mexique, selon le Service national de météorologie. La Californie a connu une vague d'incendies de forêt au printemps et au début de l'été qui se sont nourris d'herbes abondantes produites par des hivers humides successifs. Selon la société de presse, la chaleur a tué plus de 2300 personnes aux États-Unis l'année dernière, ce qui constitue un record.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
Au Cameroun, la presse écrite et les médias audiovisuels sont florissants. Le pays, classé dernier de la CEMAC dans le rapport 2024 de RSF sur la liberté de la presse, abrite l'une des plus anciennes écoles de journalisme d'Afrique subsaharienne, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Nathalie Barge a joint à Yaoundé la journaliste Evelyne Mengue-Akung, directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise.
L'un des défis aujourd'hui de l'ESSIC, l'école de journalisme de Yaoundé, qui a été fondée par Hervé Bourges en 1976, eh bien, c'est justement sa mutation vers les nouvelles formes de pratique et le nouvel environnement médiatique aujourd'hui pour pouvoir préparer une nouvelle génération de journalistes qui travaillent dans un environnement numérique avec l'IA, l'intelligence artificielle, et qui s'adresse à un public qui n'est plus le public de ces années 1940-1950, qui était sous l'effet de la piqûre hypodermique des médias et donc avalait de manière quasiment moutonne tout ce que les médias déversaient. Aujourd'hui, c'est un public critique qui parfois est plus informé souvent sur la question et qui a la possibilité et bien simplement d'aller cliquer sur Google pour avoir une information complète.
Selon le classement de Reporters sans frontières, le Cameroun est classé 130e sur 180 pays en matière de liberté de la presse, ce qui représente une progression de 8 places par rapport à 2023. Evelyne Mengue-Akung souligne la diversité de la presse au Cameroun.
Le premier critère qui apparaît, c'est sa diversité. Diversité des titres de la presse écrite, que ce soit des tabloïds ou des magazines, des chaînes de radio, télévision, parce que la libéralisation du secteur audiovisuel est intervenue au début des années 2000, donc assez tardivement par rapport à la presse écrite. Mais c'est un secteur qui s'est beaucoup développé et qui s'est diversifié avec des web TV et des web radios. Donc c'est un paysage à première vue dynamique, avec une relative liberté de parole. Lorsqu'on parcourt les titres de la presse, on se dit, voilà, on peut s'exprimer au Cameroun dans les médias. Le problème, il est plus subtil en fait. Il est à la fois un contrôle social des médias qui s'exerce de manière subtile à travers, par exemple, le pouvoir économique, les subventions qui sont accordées aux médias. Et puis de l'autre côté, le problème de, on va dire, l'autorégulation des médias qui pose un problème. Les journalistes, hélas, s'autocensurent énormément.
Doté d'un paysage médiatique parmi les plus riches du continent, le Cameroun n'en est pas moins l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes, affirme Reporters sans frontières dans son rapport, estimant que les professionnels de l'information y évoluent dans un environnement hostile et précaire. Evelyne Mang-Akung.
Également le fait que l'on constate qu'il n'y ait pas une réelle volonté de pouvoir organiser le secteur de la presse. Cette espèce de flou entretenu autour de ce secteur qui est un secteur névralgique encourage l'irruption dans la profession de quelques apprentis sorciers qui ne respectent aucune règle déontologique, ne sont pas sensibles au discours sur l'éthique et qui donnent souvent malheureusement de la presse camerounaise une image dévoyée d'une presse qui n'est pas responsable, d'une presse qui n'est pas formée, qui s'éloigne des canons de la profession.
Evelyne Mengue-Akung, directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise. Dans notre série consacrée à la diaspora internationale, nous présentons Ludovic Baron, un Français de 27 ans installé au Sénégal il y a un peu plus d'un an et qui maîtrise la langue Wolof au point que ses vidéos d'apprentissage du Wolof sont devenues virales sur Internet. Alison Fernandez nous en dit plus. Le récit est de Dini Niwa.
Ludovic Baron, un Français de 27 ans, ne vit au Sénégal que depuis un an, mais il parle déjà couramment le Wolof.
Ça va, ma maison.
Les voisins de Ludovic dans le quartier de Wakam, à Dakar, sont agréablement surpris comme ce vendeur de lait caillé.
C'est surprenant de voir un Français parler couramment le Wolof parce que la plupart des gens qui viennent de France ici ne parlent que le français. Il a vraiment travaillé dur pour apprendre rapidement. S'il a quitté la France pour venir ici, c'est parce qu'il s'intéresse à notre langue.
Ça t'aide pour ton adaptation, ça t'aide à négocier les prix aussi. Ça t'aide à découvrir les gens, découvrir leur culture, vraiment passer des bons moments, quoi. Si je parlais juste français, je ne pourrais pas découvrir les gens, rencontrer les gens de la même manière en fait.
Au Sénégal, 80% de la population parle Wolof. Ludovic Baron a compris que les Sénégalais étaient ravis de voir un Français leur parler couramment dans leur langue et que l'acquisition de compétences en Wolof faciliterait les relations et une communication efficace avec eux. N'ayant pas trouvé suffisamment de ressources en ligne pour apprendre le Wolof, Ludovic a donc décidé de lancer sa propre chaîne YouTube « Apprendre le Wolof ». Aujourd'hui, il fait des vidéos courtes et humoristiques, toujours sous-titrées, comme cette vidéo réalisée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, sur le toit de sa maison, il enregistre une vidéo avec son ami Babacar Ndaw, étudiant et passionné de la langue Wolof. Le thème du jour, les couleurs.
Connaissez-vous le nom des couleurs?
Un Wolof.
Un noir.
Nul.
Beige.
Hal.
Ok, merci Babacar.
Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de permettre aux Sénégalais de parler un Wolof pur. Un Dakarois pour parler dans une phrase où il y aura un mot arabe, un mot anglais, un mot français et un mot Wolof.
Les vidéos sont très populaires et largement partagées dans différents pays du monde, notamment en France, où elles sont suivies par de nombreux Français d'origine sénégalaise.
En fait, pour produire le bagage, ils font la
J'ai souvent eu ces retours. Le fait qu'ils voient un blanc qui sépare les Wolofs, déjà ils ressentent un peu la gêne, un peu la honte. Ils se disent ah bah lui ce blanc là il connaît ma langue, la langue de mes parents, alors que moi je la connais pas. Mais ensuite après la honte vient la motivation. Donc en fait ça les motive à apprendre la langue. Ils se disent que si quelqu'un l'a fait à partir de zéro, alors moi aussi je peux le faire.
Est-ce que vous connaissez ces mots?
Un Wolof.
Le marché.
Diaba.
La voiture.
Damarbi.
Les toilettes.
Entre les plateformes TikTok, YouTube et Instagram, Ludovic a déjà plus de 600 000 followers sur son compte Apprendre le Wolof et le nombre ne cesse de croître.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Fatouma Kalala Animassi. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.